Moi, je suis André du Mouchmail au cachet de Rinchal. J'ai réfléchi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de me combattre au cachetage. Je rencontre en combinant les deux, ben, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
C'est l'heure de Parole aux auditeurs, l'émission 100% interactive de Radio Capi, une tribune d'échange pour vous, auditeurs, sur des sujets qui vous captivent, sur des faits que vous vivez au quotidien. Ce mardi, nous poursuivons notre série d'émissions célébrant les 50 ans d'indépendance de la RDC. Aujourd'hui, nous parlons économie, plus précisément du budget de l'État. Le budget qui est un outil par excellence qui reflète l'économie du pays, un miroir du niveau social de la population. Nous allons nous pencher sur l'apport extérieur au budget de la RDC. Depuis les années 60 à ce jour, le budget de la RDC dépend essentiellement de l'apport extérieur constitué par des dons, des prêts, un apport dont le taux a varié au cours des années en franchissant souvent la barre des 50% jusqu'à dépasser les 65% du budget de l'État. Selon vous, que faut-il faire pour réduire l'apport extérieur au budget de l'État après 50 ans d'indépendance? Voilà la question pour lancer notre discussion. Nous avons invité pour vous M. Michel Sombouille, analyste économique et administrateur délégué général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Aujourd'hui, c'est Titine Koutou seul qui est à la réalisation de cette émission et de notre équipe est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois, bonjour, nous parlons aujourd'hui du budget de l'État. Eh bien, le budget de l'État est l'ensemble des dépenses, des recettes de l'État, ce que l'État prévoit pour dépenser au cours de l'année, mais aussi comment mobiliser toutes les recettes pour pouvoir effectuer ces dépenses. Il faudrait dire que dans le budget de l'État, il y a des ressources propres de l'État provenant des taxes, impôts, des productions, des entreprises publiques ou des entreprises où l'État a une participation quelconque. Il peut y avoir aussi des ressources extérieures provenant des dons ou prêts, des pays amis, d'organisations ou des banques internationales. Et aujourd'hui, nous parlons du budget de l'État, notamment des ressources extérieures. Nous attendons encore notre invité qui va faire son entrée d'un moment à l'autre. Il s'agit de M. Michel Sombouille. Il est, comme je vous l'ai dit, analyste économique, mais aussi administrateur délégué de la FENAPEC. La FENAPEC, en fait, c'est la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises ici au Congo, en RDC. Et la question pour lancer notre discussion, selon vous, que faut-il faire pour réduire l'apport extérieur au budget de l'État après 50 ans d'indépendance? Et si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Nous contacter au 081-890-6315, le 081-890-6315. Le temps de nous communiquer votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de votre ville de résidence. Et nous allons nous faire un plaisir de pouvoir vous rappeler afin que vous puissiez vous exprimer, donner votre avis. Et la seconde possibilité, c'est de nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Bonjour Léon. S'il vous plaît Léon. Léon?
Oui,
s'il vous plaît Léon, est-ce que c'est possible que vous puissiez d'abord éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous et suivre l'émission à partir de votre téléphone portable? Je pense que c'est fait. Léon, vous êtes à Béni et de Béni, dites-nous, vous connaissez le budget de l'État, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire l'apport extérieur à ce budget? Par exemple, pour l'année, le budget de l'année 2010, il est prévu à peu près presque 55% de l'apport extérieur.
Ok, merci pour m'avoir accordé la parole. De ma part, moi, je dirais que pour le fait de réduire l'apport de l'extérieur, ce qui concerne le budget, nous devons, donc il y a un manque d'abord des autorités qui sont vraiment capables de mobiliser et de sensibiliser la population pour que celles-ci répondent à leurs obligations, telles que le paiement de certaines taxes, le paiement des impôts. Maintenant, lorsqu'on manque de telles personnes, maintenant l'État ne sera pas maintenant réduit l'apport de l'obtenir, c'est comme ça le budget. Donc les autorités doivent avoir la possibilité de sensibiliser d'abord la population, quelle est la mentalité de payer les taxes pour que le budget soit aussi donc le budget puisse répondre aux exigences du pays. Maintenant, lorsque le budget essaie d'avoir une part de 50% de pourcentage au niveau de l'extérieur, c'est vraiment déplorable, puisque dans notre pays, nous ne manquons pas de recettes, mais la volonté de certaines autorités qui veulent seulement remplir leurs poches et oublient le devoir que la population leur a donné de faire des choses à leur nom. Donc, les autorités doivent mobiliser et sensibiliser la population et nous devons aussi avoir la culture du contrôle du budget. Lorsqu'il y a un budget, soit minime ou non, la culture du contrôle, donc le contrôle strict du budget. Le budget doit être contrôlé. C'est comme dans notre pays actuellement, on dépense et le député, le fort, c'est presque l'objectif qui arrive maintenant à démontrer certaines manœuvres qui sont vraiment frauduleuses.
Merci beaucoup Léon pour votre participation à cette émission. Dans ce studio, nous accueillons déjà Monsieur Michel Sombré. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes analyste économique, vous êtes aussi ADG de la CENAPEC, la CENAPEC qui est la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons du budget de l'État, notamment de l'apport extérieur, le budget de l'État qui est l'ensemble des recettes et dépenses de l'État. Et dans ces recettes, il y a les ressources propres de l'État, provenant des taxes, impôts et des productions des entreprises publiques ou des entreprises dans lesquelles l'État a une participation quelconque. Il peut avoir aussi des ressources extérieures provenant des dons ou prêts des pays amis, d'organisations ou des banques internationales. Déjà, Léon a donné son avis, ce qu'il pense, ce qu'il faudrait faire pour réduire en fait l'apport extérieur au budget de l'État, parce qu'il faudrait dire que depuis les années 60 à ce jour, notre pays a connu, ça a varié selon les années, mais souvent la barre de l'apport extérieur a même franchi les 50%, et pour l'instant, le budget actuel de 2010, c'est plus de 52%, 55%, donc c'est là notre question de ce jour. Vous êtes analyste économique, quelle étude faites-vous en fait de l'évolution du budget de l'État depuis les années 60 à ce jour?
Madame, merci de l'invitation et merci également de la question. Ce que je peux dire rapidement, c'est que en termes d'évolution, en termes de bilan, si vous voulez, bilan perspective, je dirais que la problématique du budget s'inscrit dans l'équilibre nécessaire qu'il faut trouver entre deux enjeux majeurs, l'enjeu de la mondialisation et l'enjeu de l'indépendance de l'économie de la nation. C'est-à-dire, en fait, un équilibre important entre le concept de l'interdépendance nécessaire et incontournable et celui de l'indépendance nationale qui est une nécessité impérieuse qui s'impose à nous tous, pour ainsi dire. Alors, lorsque cet équilibre n'est pas retrouvé, n'est pas retracé, il se fait que l'État fonctionne un petit peu comme sur des béquilles en empruntant essentiellement à l'extérieur. Le problème ne devrait pas être celui de réduire les apports extérieurs dans le budget de l'État. Le problème serait de réduire la part de l'extérieur dans le budget de l'État. C'est deux choses différentes. Parce que augmenter des recettes en provenance de l'extérieur, c'est une très bonne chose. Mais faire en sorte que les recettes intérieures priment toujours, soient toujours prépondérantes, est la chose la plus indispensable qu'il faut rechercher. Alors si jusqu'aujourd'hui, la part de l'extérieur domine l'essentiel du budget de l'État, ce n'est pas simplement une anomalie, ça a des conséquences graves, mais si cela en est ainsi, c'est parce qu'il manque essentiellement dans toutes les politiques que nous appliquons dans nos pays, le concept de stratégie. C'est un concept qui manque abondamment. Il n'y a pas de stratégie. L'absence de stratégie fait que l'économie du pays ressemble à un simple amas désordonné, déstructuré, désintégré, qui ne permet pas l'élaboration d'une politique cohérente qui puisse, de façon prévisible, permettre de retracer les différentes sources, les différents actes générateurs de revenus pour les optimaliser de telle sorte que la part intérieure dans le budget de l'État prime sur les apports extérieurs. Donc il faut réorganiser l'économie nationale, c'est important. Il faut, dans cette réorganisation, nous essayer d'habiter, nous essayer de dominer par le concept de la stratégie économique pour que nous puissions tisser un système économique congolais. C'est ce que nous n'avons pas. Au système économique congolais, nous devons recourir plutôt au budget des autres pays qui viennent à notre rescousse. C'est ce que nous appelons les aides extérieures. Ce sont des budgets des autres. Des taxes payées par les autres, des impôts payés par les autres. C'est à cela que nous recourons pour fonctionner, comme si nous sommes une simple, je vais dire, un simple parasite.
Oui. Alors nous allons écouter aussi Dépol qui est à Kinshasa, qui pourra donner aussi son idée, ce que lui pense pour pouvoir réduire ses ressources extérieures, voir comment est-ce qu'au niveau des ressources propres, on peut peut-être maximiser la mobilisation des recettes. Dépol, bonjour.
Bonjour, Madame Chantal.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Bon, quant à moi, j'ai plusieurs qu'on peut. Quand on élabore les budgets, associer souvent les experts qui sont qualifiés. Donc là, ils pourront au moins évaluer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La proposition, c'est qu'on puisse vraiment faire ce qu'il faut, surtout du côté de l'agriculture. Comme ça, quand nos produits sont exportés, il y a l'argent qui entre dans les caisses, et aussi les services des douanes, les services de l'État, tous les services de l'État doivent avoir des gens qui sont compétents pour ne pas subir des crises qui sont passées par là. On entend souvent que l'argent a disparu dans les caisses. Les gros montants, c'est pas bien. Il faut des gens qui sont compétents, des gens qui ont une bonne moralité. Comme ça, quand l'argent entre dans les comptes de l'État, on voit cet argent, on le prend, comme ça, dans les budgets, il n'y aura pas vraiment d'apport extérieur. Si la justice est bien et aussi les services de l'État fonctionnent en bon et du fort.
Merci beaucoup, Dépol, de votre participation. Ici, à partir de Kinshasa, vous pensez qu'il faudrait faire recours à l'expertise étrangère, augmenter la production interne et lutter contre la corruption.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Monsieur Michel Soumoué. Vous avez suivi Dépol. Il pense qu'il faudrait faire recours à une expertise étrangère. Est-ce que ce sont les experts qui manquent ici en RDC?
Non, madame. Les experts existent bel et bien en RDC. Le secteur agricole auquel il fait allusion existe aussi. Le secteur douanier et financier en général existe aussi. C'est vrai que pour l'essentiel, ce sont des structures embryonnaires. Mais ce que je dis, c'est que le plus important, ce n'est pas d'avoir une telle variable qui est présente ou qui est absente. C'est la cohérence qu'il faut établir, la cohésion, les interrelations qui sont indispensables. Il faut établir entre différentes variables économiques. Parce que nous sommes en train de parler du budget comme étant le point principal à l'ordre du jour, nous devons toujours avoir à l'esprit le fait que le budget est un aspect, est un des instruments majeurs de la politique économique du gouvernement. En fait, il n'y a que deux grands instruments dont un gouvernement peut se servir pour réguler la conjoncture économique. C'est la politique monétaire d'un côté, la politique budgétaire de l'autre. Ces deux politiques servent de jambes à l'État, mais des jambes intégrées à l'ensemble du corps pour permettre à un État de se mouvoir, à une économie nationale de se mouvoir, d'aller de l'avant, de croître. C'est dans la mesure où ces deux politiques sont combinées de façon efficace et rationnelle que nous pouvons aller aller crescendo, comme on dit en latin, c'est-à-dire partir, marcher dans le sens de la croissance perpétuelle. Ainsi, notre budget peut évoluer de façon prévisible pour que nous puissions atteindre quoi que ce soit. Vous imaginez, par exemple, dans les années 70. Je prends l'année 1970 elle-même. Le budget de l'État était aux environs de 360 millions de dollars déjà. Quand on a été les années 75, malgré la crise qui sévissait déjà à cette époque, le budget pouvait encore approcher 800 millions de dollars. On est à 780 millions de dollars à l'époque. Quand je dis 700 millions de dollars, 300 millions de dollars, il faut les comparer par rapport, il faut les comparer à la population, à la démographie de l'époque, pour dégager le fait que le citoyen congolais, malgré la crise qui sévissait déjà dans les années 70, vivait encore très bien. deux fois, trois fois mieux qu'aujourd'hui. Et puis, le budget a commencé à dégringoler. Pourquoi ? Parce que, de l'autre côté, il y a eu des défaillances au niveau de la politique monétaire qui constituent le tissu essentiel de l'économie nationale.
Mmh.
Je vous ai dit tout à l'heure que le budget et la monnaie servent de deux jambes à l'État. Pour qu'une jambe avance, il faut que l'autre reste en équilibre et serve à l'autre d'appui. Lorsque la politique monétaire a dégringolé, automatiquement, elle déséquilibre la politique budgétaire. Et c'est comme ça que notre budget, qui avait déjà atteint un plus d'un milliard de dollars, presque 2 milliards de dollars en 1988, va commencer à péricliter dans les années 90, ça a tombé à 300 millions de dollars.
Mais quels sont les avantages que notre budget soit essentiellement des ressources propres de l'État et qu'on évite carrément cet apport extérieur?
Je vous répète encore qu'il n'est pas indispensable d'éviter les apports extérieurs. Parce que dans tous les pays du monde, il y a toujours la part de l'intérieur, la part de l'extérieur. Je vous ai dit qu'il y a toujours l'équilibre qu'il faut rechercher en permanence entre la mondialisation et l'indépendance nationale. On ne peut pas exclure l'une ou l'autre. La mondialisation et l'indépendance doivent marcher de pair. Ce sont deux enjeux majeurs d'une nation. Donc on ne peut pas exclure les apports extérieurs, sinon on se renferme dans une autarcie, sinon on traduit le fait qu'on n'existe pas par rapport à l'extérieur. Les apports extérieurs sont indispensables dans toutes les économies, mais elles ne doivent pas être prépondérants. C'est ça le problème.
C'est ça le problème.
Il ne faut pas que les apports extérieurs soient prépondérants parce que nous devenons à ce moment-là à la solde des intérêts étrangers. Et ça, il faut éviter. Il faut toujours que les apports intérieurs priment sur les apports extérieurs et que les apports extérieurs ne soient finalement qu'une ressource, une simple ressource à l'économie intérieure. Ça, c'est indispensable. L'enjeu majeur, c'est de savoir comment devons-nous accroître nos recettes budgétaires intérieures, les ressources propres de l'État, c'est-à-dire de son provenance des impôts et des taxes, notamment au niveau de la douane. Et là encore, il faudrait qu'on mentionne une chose importante. Il n'est pas bon que les recettes douanières priment sur les recettes fiscales, les impôts intérieurs. Ça veut dire, à ce moment-là, qu'on est encore dépendant énormément de l'étranger, on est à la merci des caprices de l'étranger.
Donc il faudrait une production interne plus grande.
Absolument, il faut une production interne plus grande, et cette production demande à être préalablement financée par des crédits intérieurs. Donc il faut nécessairement une politique monétaire responsable, adéquate et viable pour permettre le financement de l'activité économique génératrice de revenus imposables. Si vous n'avez pas financé l'activité économique, vous n'aurez jamais de la production et vous n'aurez jamais suffisamment de recettes intérieures.
Oui, alors nous allons écouter Congo, qui est à Mbujima et Chico Agemena, et François, qui est ici à Kinshasa, du côté de Maluku.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Congo.
Bonjour Radio Okapi.
Oui, on vous écoute. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous ayons, qu'on puisse mobiliser plus facilement les ressources propres et, si c'est possible, de réduire qu'il n'y ait pas de prépondérance extérieure dans le budget de l'État?
Et merci beaucoup. Selon moi, je trouve que lorsque l'on se recourt à l'extérieur pour demander l'argent, c'est parce qu'il y a d'abord déficit. Alors lorsque nous avons les déficits budgétaires, on fait recours à l'extérieur pour combler ce trou que nous avons chez nous afin que les budgets soient équilibrés. Alors de ce fait, il se présente une certaine forme de dépendance à l'extérieur. Alors, si nous dépendons de l'extérieur, nos actions ne seront pas libres, ne seront pas dirigées vers le social. De ce fait, il faut penser que le Congo n'a pas d'emploi ou au Congo il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas des entreprises pour engager des Congolais. Parce que c'est à partir des emplois que l'on peut frapper l'impôt, que l'on peut prélever des taxes afin que les caisses de l'État soient renflouées de fonds qui peuvent servir à l'élaboration du budget. Dès lors qu'il n'y a pas d'emploi, madame, vous imaginez, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que recourir à l'extérieur. Et aussi la situation des entreprises au Congo, c'est portefeuille. La situation de l'AMIBA, l'AMIBA est par terre, l'AMIBA est en faillite et elle descend aux enfers. La situation de la SNCC, il n'y a pas de train. Et pourtant, ils ont des travailleurs. Si ces travailleurs-là sont payés, l'État frappe l'impôt sur leurs revenus. frappe encore des taxes, reprend des taxes sur les revenus. Cela peut renflouer les caisses de l'État. Mmh. Et maintenant que ces gens-là sont délaissés, comment vous pouvez penser à ce que l'on puisse avoir un budget qui n'aura pas une partie majoritaire provenant de l'extérieur? Moi, je vois que c'est faux. Mais comme solution, moi, je prévois ceci. Il faut que le Congolais puisse avoir l'esprit de créer les petites et moyennes entreprises. Et là aussi, l'État congolais doit favoriser, doit stimuler le Congolais à créer des petites et moyennes entreprises. Bébé, il faut que nos bailleurs de fonds, ces gens-là ont des économistes, des bailleurs de fonds, ils ont des économistes, des grands maîtres en économie. Mais tous ces gens-là, lorsqu'ils pensent à aider le Congo, c'est seulement dans le secteur social. Or, il est bien dit en économie que pour mieux évoluer, il faut d'abord aider le secteur économique. Lorsque vous aidez le secteur économique, alors cela aussi a de l'impact sur le secteur social.
Mmh.
Vous venez aider le social pendant que l'économie est malade. Ah, ça ne se comprend pas. Ou bien vous voulez le malheur des Congolais et quel est leur bonheur. C'est mieux pour moi d'aider le secteur économique, les entreprises qui produisent industriels comme commerciaux qui sont au Congo, les aider afin que ces entreprises-là puissent produire beaucoup plus, afin que le social aussi puisse trouver des évolutions.
Merci beaucoup.
On sera toujours dépendant.
Merci Congo pour votre intervention. Bonjour Chico. Chico?
Oui, allô, bonjour.
Oui, vous êtes à Guémena. Selon vous, que faut-il faire en fait pour pouvoir augmenter en fait la production interne, les ressources internes propres de la RDC et pouvoir réduire, si c'est possible, qu'il n'y ait pas une prépondérance, une prédominance des ressources extérieures?
Merci beaucoup d'abord pour m'avoir accordé la parole. Moi, je vois 50 ans déjà passés de l'indépendance où il n'y a rien qui est signalé comme progrès pour le pays. Donc, de ma part, ce que j'ai trouvé bon, c'est que les gouvernements devaient d'abord cesser avec les ONG qui ne construisent pas pour l'avancement du pays.
Mmh.
Et la spécialité qu'ils ont seulement de venir prendre les anciens bâtiments et puis repeindre sans pour autant construire. Pendant que il y a les entreprises qui fonctionnaient dans les temps, ces entreprises-là ne fonctionnent plus en même temps. La population congolaise entière vit dans le chômage. Autant si le gouvernement avait encore des bons conseillers, analystes économiques, il devait chercher comment relancer ces anciennes entreprises en état de chômage et puis réduire le chômage de la population congolaise. Donc c'est à peu près ça ma réaction. Moi.
Merci Chico. Vous êtes à Guémena, c'est dans la province de l'Équateur. Nous saluons aussi François qui est de l'autre côté. Il est à Kinshasa, mais du côté de Maluku. François? Nous avons perdu François, nous allons essayer de pouvoir le recontacter. Entre-temps, il y a Dr Gary Wakingana. Il nous a écrit à partir de notre adresse internet pa@radiocapi.net. Il écrit ceci: vous savez très bien que la force d'un pays, c'est sa capacité de sa prise en charge. Or, la RDC, notre pays, vient de quitter d'une longue période de guerre qui a détruit tout son tissu économique, qui est en train de se rechercher pour l'instant, ce qui fait que le climat des affaires n'étant pas encore favorable aux investissements extérieurs dans notre pays, il est difficile que notre gouvernement, malgré sa bonne volonté, puisse trouver des capitaux pour faire fonctionner toutes les usines tombées en faillite aujourd'hui. Et donc, il aura toujours besoin de l'extérieur pour compléter ce manque. Tous nos dirigeants devraient travailler pour le redressement économique de ce pays. Il y a aussi Freddy Niembo de la coopération technique belge à partir de Mbandaka. Il a donné plusieurs facteurs pour pouvoir relancer l'économie, aussi voir dans quelle mesure éviter ces apports extérieurs qui ne soient plus aussi dominants. La première chose, il voudrait que la population, il pense que la population est d'abord dans l'ignorance, il faudrait lutter contre l'ignorance de la population. Il pense qu'une étude que nous avons menée dans les centres-villes de Lubumbashi a révélé une criante ignorance de la population quant à l'exercice de certains impôts, comme celui dû sur les revenus locatifs. Il y a aussi l'inconscience, le manque de la culture fiscale. Il donne des propositions. Il voudrait en fait que la fiscalité puisse constituer, comme dans d'autres pays, la grosse mamelle de l'État pour réduire le poids de l'apport extérieur dans le budget. Un accent tout particulier doit être mis sur la sensibilisation tout en luttant quotidiennement contre l'impunité et la fraude. Il suffit de s'arrêter et voir pour se rendre
rendre compte que le train de vie des agents de l'administration fiscale est vraiment démesuré. Ils ont des rémunérations qui débordent et il dit que ces personnes s'amusent avec les deniers publics. Donc il faudrait lutter contre la fraude, contre les détournements des fonds et aussi lutter contre l'impunité. Voilà des avis de nos auditeurs qui nous ont écrit à partir de pa@radiocapi.net.
Le 50 mai, on en parle dans Parole aux auditeurs.
En juin, chaque mardi, émission spéciale orientée sur les perspectives d'avenir. Mardi 15, le budget de l'État et l'industrialisation. Mardi 22, sécurité, une armée à la dimension du pays. Mardi 29, quelle politique étrangère sur la scène internationale?
50 ans d'histoire, ça se discute avec vous, dans Parole aux auditeurs, sur Radio Capi, chaque mardi, à partir de 11h.
Michel Sommet, vous êtes notre invité, analyste économique. Vous avez suivi nos auditeurs qui ont fait des propositions pour pouvoir réduire ces ressources extérieures qui souvent prédominent dans notre budget. Votre réaction?
Les différents auditeurs ont fait des interventions très intéressantes et même capitales. Lorsque je retrace, par exemple, le point de vue de M. Congo, vous avez dit, qui a insisté sur l'absence des mécanismes de création de l'emploi et sa solution par la motivation à la création des plus et moins entreprises. Mm-hmm. C'est vrai qu'à travers le monde, les PME constituent les plus grands employeurs du monde et pratiquement les principaux bailleurs de l'État parce que l'impôt doit provenir essentiellement de l'activité du secteur privé. Ce n'est pas trop à nous en sensant sur le secteur public qu'on devrait avoir suffisamment de ressources. C'est dans la mesure où l'État motive suffisamment la création des PME qu'on parvient à une mobilisation accrue des recettes de l'État. Mais cela suppose encore une fois que nous puissions résoudre l'épineuse problème du crédit à l'activité économique, du crédit à l'investissement. Mais aucune entreprise à travers le monde ne peut se créer par les ressources propres, l'autofinancement, c'est marginal. Les entreprises se créent par l'autofinancement sont très marginales à travers le monde entier. Il faut que le secteur bancaire joue son rôle dans notre pays. Il faut que le marché financier qui n'existe pas encore soit un jour créé dans ce pays pour qu'il y ait beaucoup de création dans ce
Donc
pays.
Donc, faire recours au crédit.
Absolument. C'est ce que je disais tout au début, qu'on ne peut pas avoir une politique budgétaire efficace si la politique monétaire est malade. La politique monétaire a une branche qu'on appelle la politique de crédit qu'il faudrait nécessairement penser et même repenser. C'est important qu'on y parvienne. Mm-hmm. Beaucoup d'intervenants, notamment M. Freddy a beaucoup parlé de la connaissance, de l'ignorance. Il faut éduquer et sensibiliser la population. Mm-hmm. C'est vrai. Vous pouvez l'éduquer, la sensibiliser autant que vous voudrez, mais dans la mesure où il n'y a pas de ressources financières pour générer une activité économique, vous n'aurez pas résolu la question. Vous aurez créé autant de savants que l'université de Kinshasa en train tous les jours, qui finalement n'ont pas d'emploi parce qu'il n'y a pas de revenus pour financer, pour créer des emplois, pour créer ces emplois-là. Mais il faudrait que M. Freddy note que la puissance va en raison inverse de la connaissance. Ça veut dire là où la connaissance est insuffisante, il faut que l'État soit suffisamment puissant pour compenser cette absence du secteur privé. C'est important, madame, que nous puissions, lorsque nous pensons au budget de l'État, que nous ne puissions pas penser budget indépendamment de la monnaie. Après tout, les budgets, ce sont des ressources financières qui se donnent à monnaie nationale ou à monnaie étrangère, comme vous voulez, mais c'est de la monnaie qui est derrière le budget. Il faut donc, si absolument, j'interviens là-dessus, si, et je souligne, je martèle, si on veut avoir une politique budgétaire responsable dans ce pays, il faut nécessairement penser à la structuration de l'économie nationale, laquelle structuration repose sur une politique monétaire indispensable.
Il y a un auditeur qui a proposé qu'on puisse arrêter avec ceci, avec les ONG. Quels seraient alors les rôles des ONG dans ce contexte aussi?
Les ONG existent à travers le monde entier. C'est avec les ONG, c'est peut-être trop brutal, mais je pense qu'il faudrait atténuer cette affirmation. Il est important, ce que le directeur a dit, ces préoccupations sont fondées. Notre État, au lieu d'être
un état gendarme comme à l'époque de Dame Smith, ou un état providence comme avec les Keynésiens, il est devenu presque lui-même un état ASBL, un état ONG, et ça c'est malheureux. Vous regarderez, vous vous rendrez compte que la plupart des ONG appartiennent aux membres du gouvernement, aux membres des institutions politiques et publiques, c'est-à-dire aux tenants de l'État. Mais en même temps qu'ils sont les tenants de l'État, en même temps, ils nient l'existence de l'État en se focalisant sur le non-gouvernemental. Il est important qu'on puisse réduire l'impact des ONG parce que c'est ça dilue l'activité de l'État, ça dilue l'importance de l'État dans la société, alors que je venais de dire que la puissance doit aller en raison inverse de la connaissance. Il faut aujourd'hui qu'il y ait plus d'État, c'est mon point de vue. La situation du Congo nous oblige à avoir plus d'État. Non pas pour remplacer le privé, mais pour compenser l'ignorance, compenser la sous-information, pour réduire l'entropie, comme on dirait, comme devait le dire.
Donc il faudrait que l'État puisse mener des actions un peu plus concrètes sur le terrain, qu'on puisse sentir sa présence.
Parce que, madame, la politique monétaire relève de prérogatives de l'État. C'est l'État qui est le premier, qui est l'auteur, qui est le promoteur, qui est le patron de la politique monétaire, et c'est elle qui est le plus grand absent de ce pays. Tant que la politique monétaire est absente, tous les efforts qu'on fournit en termes de budget seront vains et inutiles.
Et quel genre d'action il faudrait concrètement sur le terrain? Qu'est-ce que l'État devrait faire pour qu'on sente? Qu'est-ce qu'il peut faire davantage, en fait?
Davantage, l'État, et ça je l'ai toujours dit depuis des années et des années, je le répète, vous me donnez raison, on a fait un siècle, il faut que l'État restructure la politique monétaire de ce pays. Ça veut dire qu'il doit commencer par restructurer la coquille qui contient cette espèce, cette substance rare dans ce pays. La Banque centrale du Congo est le principal responsable de la déconfiture de l'État congolais. La Banque centrale du Congo est le responsable numéro un de l'absence d'une économie nationale structurée et organisée. La Banque centrale du Congo constitue le virus de l'économie nationale. La gangrène, comme je l'avais dans un livre, j'écris ça.
Comment devrait se comporter la Banque centrale selon vous?
Il faut que la Banque centrale nous donne à ce pays une monnaie qui répond à ces trois natures, à ces trois qui réunit les trois critères d'une monnaie, la liquidité, la convertibilité et la stabilité. Aujourd'hui, la monnaie étrangère est plus utilisée que la monnaie nationale dans ce pays. Il y a plus de dollars que de francs congolais. Ce n'est pas normal. Et conséquence.
Plus de dollars que de francs congolais, ou bien la population a plus confiance aux dollars qu'aux francs congolais?
Si aujourd'hui on vous paye en francs congolais, vous ne refuserez pas. Et d'ailleurs, je me rends compte que souvent, quand on va dans des supermarchés où le taux d'échange est plus intéressant, les gens viennent avec des dollars et demandent d'avoir un retour des francs congolais qu'ils ne reçoivent pas. Parce que la masse des francs congolais est rare et infiniment moindre par rapport aux besoins de l'économie nationale. Voilà ce qui se contamine au niveau de la politique budgétaire. À partir du moment où, au niveau de la politique monétaire, c'est la monnaie étrangère qui domine, il est normal qu'au niveau de la politique budgétaire, également, les apports extérieurs dominent. C'est ça le problème. Quand je vous dis qu'il faut établir et faire attention à ce lien, j'allais dire, ombilique qui existe entre la politique monétaire et la politique budgétaire, je pèse mes mots, je suis économiste, je suis monétariste, je suis financier, et je pèse bien les mots entre l'équilibre indispensable entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et je pèse les mots lorsque je vous dis que la Banque centrale du Congo constitue la gangrène de l'économie nationale, parce que c'est elle qui pourrit la politique budgétaire, et donc qui est à la base de la déconfiture permanente de la conjoncture de l'économie nationale. Ça, c'est pas une injure, ça, c'est une vérité scientifique absolue qui n'a pas été démentie par le seul économiste jusqu'à ce jour dans ce pays.
Bon, nous allons aussi écouter les autres auditeurs qui sont au bout du fil. On a pu récupérer François qui est à Kinshasa. Il y a aussi l'honorable Kiakwama qui a été pendant un bon moment dans le gouvernement, un ancien ministre. Et aussi, nous avons Jean-Pierre qui est à Bandundu.
Radio Café se met à l'heure de la planète Cook et prend la direction de l'Afrique du Sud.
Mondial Africana. Rendez-vous tout à l'heure à 22h en direct avec l'équipe de sport.
Pour participer à notre magazine spécial Coupe du Monde, appelez tout de suite le 081 890 64 89.
081 89 064 89.
Ensemble, nous allons vivre cette première Coupe du Monde africaine.
À 22h, Mondial Africana.
Parole aux auditeurs.
Et vous êtes branchés sur Radio Capi. Nous poursuivons cette émission de parole, l'émission Parole aux auditeurs, où nous parlons aujourd'hui de l'économie, plus précisément du budget de l'État, de l'apport extérieur au budget de l'État de la RDC. Bonjour, honorable Kiakwama.
Bonjour, madame.
Vous êtes député national. Aujourd'hui, nous pensons, nous réfléchissons sur comment réduire l'apport extérieur au budget de l'État, cet apport en fait qui prédomine dans ce budget. Quel est votre avis?
Bien, d'abord, je suis attentivement ce que vient de dire mon prédécesseur. Je suis totalement d'accord avec lui que la Banque centrale est certainement la plus grosse maladie que ce pays ait contracté depuis 50 ans. Si on ne met pas de l'ordre à la Banque centrale, l'économie congolaise ne se redressera jamais. Là, je crois que nous sommes d'accord. Mais je voudrais aussi revenir sur les deux gros acteurs qui doivent faire que cela change. Madame, vous savez, il n'y a que deux manières de financer une activité économique. La première, c'est d'avoir les moyens propres. Et ce n'est pas toujours le cas. La seconde, c'est d'emprunter. Et c'est ce que mon prédécesseur appelle le crédit. Mais pour qu'il y ait crédit, pour qu'il y ait activité économique, il y a deux acteurs principaux. Le premier, c'est l'État. Et je viens d'entendre, il ne faut plus d'État. Non, entendons-nous bien. Il faut un meilleur État. Pas un État dictatorial, ni totalitaire, mais un État ouvert, visionnaire, qui aime ce pays, régulateur, volontariste, responsable, arbitre, régulateur, bon gestionnaire. C'est cet État-là qui donnera les garanties et qui va changer l'image que les gens, à l'intérieur comme à l'extérieur, ont de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays qui est perçu parfois par nos propres enfants et par l'extérieur comme un pays où règne le désordre, l'impunité, la corruption, la confusion. Comme cela, si nous portons toujours cette image-là, on n'ira nulle part. Et le premier responsable pour embellir la mariée qu'est la République démocratique du Congo, c'est l'État. Je crois que là, nous sommes d'accord. Deuxièmement, c'est ce que mon prédécesseur a souligné aussi, le secteur privé. En fait, c'est-à-dire les entreprises. C'est là les foyers de création de richesses. Il faut produire soit des biens, soit des services. À ce jour, le beau Congo ne produit strictement rien. Il importe tout. Ce n'est pas comme cela que nous aurons une activité économique. Mais l'activité économique suppose aussi qu'il y ait des entrepreneurs et pas ces gens gestionnaires des manéwas ou d'autres qui sont dans la concussion avec le pouvoir ou avec tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir, qui font des coups, qui font de la spéculation. Donc, il faut des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs qu'on appelle à l'économie des sous-prétériens, c'est-à-dire ceux qui font de l'innovation, qui sont imaginatifs, qui sont courageux, qui sont battants, qui sont sérieux, et qui ont foi en leur soutien eux-mêmes, et qui ont foi au devenir et à l'économie de ce pays. Si cela ne se fait pas, madame, nous n'irons nulle part.
Oui.
Il faut ajouter qu'il y ait un secteur bancaire crédible, efficace, et une intermédiation qui gère le crédit au privé de manière efficace.
Oui, honorable.
Tout ça, ça fait des ans.
Honorable Gilbert Kiakwama, avant d'être député national aujourd'hui, pendant un moment, vous avez été dans le gouvernement, j'ai une bonne mémoire, vous avez été ministre des Finances, mais selon vous, quel serait l'élément en fait déclencheur? Parce qu'au-delà de tout, il faudrait quand même une pulsion. D'où doit venir cette pulsion?
Mais la pulsion vient d'abord de la politique économique, monétaire et des finances publiques de l'État. C'est l'État qui doit réguler l'économie. C'est l'État qui doit sécuriser les gens. C'est l'État qui doit promouvoir à la fois l'activité économique, mais surtout s'assurer que les biens et les personnes sont bien protégées, que la justice fonctionne correctement. Vous ne pouvez pas vous imaginer, madame, le rôle de l'État dans un pays.
L'État, c'est un peu vague, hein, lorsque vous dites l'État.
Mais madame, l'État, ce n'est pas vague, c'est parce que vous confondez tout, madame.
Oui, quand
vous dites l'État, ça s'appelle, en termes clairs, le gouvernement, l'exécutif. Nous avons trois branches dans l'État. L'État se compose d'abord du législatif, qui fait des lois. et ces lois sont exécutées par l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, et ils sont à la fois vérifiés, s'assurer de se harmoniser pour la justice, qui doit sanctionner ce qui empêche l'arbitraire, le jugement unique et la confusion, mais en même temps, il faudrait qu'il y ait absolument le contrôle de l'exécutif par le législatif. Donc, lorsque je parle de l'État, je parle de la puissance publique. Mmh. Et cette puissance publique se manifeste à la fois par l'action du gouvernement, et dans notre cas, il y a le chef de l'État, c'est-à-dire la présidence, et le gouvernement qui constitue ce qu'on appelle l'exécutif, un des pouvoirs.
Merci beaucoup, honorable Kiakwama, pour votre intervention. Nous allons aussi écouter François et Jean-Pierre, et puis nous allons donner la parole à notre invité. Bonjour François. François, vous êtes au bout du fil?
Jean-Pierre.
Nous avons perdu François qui nous appelait parce que de Kinshasa, donc Jean-Pierre est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, à partir de Bandundu, quelles sont vos propositions? On vous écoute.
Oui. En fait, c'était Jean-Pierre de la radio, de la chaîne télévisée, je me suis dit à Bandundu, l'émission de Bloc Plus. J'aimerais, comme mon professeur vient de le dire, que l'État a une part de responsabilité dans cette histoire. Et c'est pourquoi j'aimerais faire trois propositions à l'État, qui est le moteur, mais que nous savons aussi que la population a la part des choses à faire. La première proposition que je dois faire à notre État central, c'est de bannir la politique de la main tendue. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, c'est donc mettre en place la politique du renforcement de la production interne, comme d'autres prédécesseurs viennent de le dire.
Mmh.
Et troisièmement, c'est appuyer le mécanisme de transformation ici sur place, même en RDC, parce que s'il n'y a pas vraiment de transformation, ils sont en train de voir le pétrole et autres d'autres matières qui sont en train d'être prêtées à l'étranger. Cela nous fait vraiment échapper. Des grandes richesses qui fait profiter notre population.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour votre intervention. Il y a Patrick Dumas de Kisangani qui nous écrit du ceci: pour éviter l'apport extérieur au budget de l'État, il est indispensable d'abord de sensibiliser le contribuable, ensuite revoir l'assiette fiscale et enfin recycler toutes les personnes qui ont pour charge la perception d'impôts et taxes qui constituent d'ailleurs la fiscalité de base pour le budget d'un État. Les impôts perçus au Congo entrent moins au trésor public qu'aux poches des personnes, des individus, alors que l'impôt est une dette sacrée. S'en affranchir d'une manière ou d'une autre serait un vol. Voilà ce que nous dit Patrick Dumas de Kisangani.
Et si on prenait rendez-vous juste pour vous agrémenter votre début d'après-midi, 5 jours par semaine pour parler culture, mais aussi femme et bien-être. C'est tout simplement Métissage, de lundi à vendredi, à partir de 13h, dans le Kinshasa. Avec Jeannot Matoki.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Monsieur Somboué. Vous avez quelque chose à dire, une réaction, parce que je voyais que vous avez eu envie de donner déjà votre avis. Il y a le député, l'honorable Gilbert Kiakwama, qui a donné sa position par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Il a même fait allusion que le pays ne produit pas. Le pays ne produit pas ou produit peu.
Madame, justement, j'ai eu envie de réagir lorsque l'honorable a rectifié en introduisant une nuance importante entre le fait que je disais qu'il faut plus d'État, lui a dit qu'il faut plutôt un meilleur État.
Mm-hmm.
Je voulais seulement rassurer l'honorable qu'il n'y a pas de divergence parce qu'il y a le plus avoir et le plus être.
Mm-hmm.
Donc il faut plus d'État, et d'ailleurs il m'a rejoint plus tard lorsque vous posiez la question sur la pulsion, d'où doit venir la pulsion. Il a très bien dit que la pulsion viendra de l'État. Parce qu'il faut une politique économique, il faut une politique monétaire, il faut une politique financière indispensable. Lorsque j'insiste sur la question monétaire, vous savez, quand on parle du budget de l'État, on appelle ça en d'autres termes les finances publiques.
Et nous avions eu, comme à l'instar de l'honorable qui a commencé à nous parler, nous avions eu aussi un grand ministre des Finances français qui s'appelait Colbert, qui, dans une situation semblable à la nôtre, il avait crié, il avait dit haut et fort, c'est devenu un principe économique, faites-moi de la bonne monnaie et je vous ferai de bonnes finances. Ça veut dire que la condition pour que nous puissions avoir des finances publiques viables consiste à avoir au préalable une politique monétaire responsable. Je suis ce mot. Alors, lorsque l'honorable Kakoma parle de deux acteurs principaux qui doivent intervenir pour dans la restructuration de l'économie nationale, moi je voudrais qu'il ajoute un acteur qu'il a omis. Le consommateur est un acteur prépondérant. C'est pour ça que dans des pays organisés, on octroie même des crédits à la consommation. Ce qu'on appelle des cartes de crédit généralement sont données aux consommateurs parce que c'est eux qui sont les principaux moteurs de l'investissement. C'est seulement dans la mesure où la demande croît à l'intérieur qu'on peut avoir plus d'investissements. C'est que les entrepreneurs sont prépondérants, il a bien précisé, acceptent de s'investir uniquement lorsqu'ils savent, comme dit Keynes, que la demande suivra. Et ils répondent en fait à une demande effective, une demande anticipée des agents, et c'est ça qui font de l'investissement et la production. Or, dans notre pays, justement, l'absence d'une politique de crédit, c'est que non seulement il n'y a pas suffisamment d'emplois générateurs de revenus en termes de salaire, mais aussi, il n'y a même pas de crédit direct aux consommateurs. Ça fait que des agents qui devraient constituer la demande de l'économie nationale et donc générer plus d'activités pour plus d'impôts sont mis à la marge de l'économie, à la périphérie de l'économie nationale. Ça pose un problème. Encore une fois, une responsabilité de la Banque centrale. Lorsqu'il n'y a pas un système financier adéquat, organisé, l'honorable a parlé de l'intermédiation financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création de la monnaie secondaire est absente parce que la monnaie primaire qui doit venir de la Banque centrale n'y est pas. Ce qu'on appelle la base monétaire, elle est exiguë, elle est chétive et ça pose problème. Il ne peut pas y avoir une activité d'intermédiation financière à partir du moment où le créateur de la monnaie primaire, qu'on appelle la base monétaire, est le même absent. Et la Banque centrale est le plus grand absent de l'économie nationale. Et c'est un vide énorme qui fait une érosion dans notre économie à la base de la désintégration que nous
faisons. C'est sur le plan vraiment macroéconomique, mais sur le plan microéconomique, qu'est-ce que la population peut faire? Quel est son rôle dans ce niveau, à ce niveau-ci?
La population, c'est elle qui constitue ce que l'on appelle la demande nationale. La demande signifie quoi? Signifie que la population est le moteur premier de l'investissement. C'est seulement dans la mesure où vous exprimez la demande de consommation de riz que vous aurez plus d'investisseurs pour produire du riz. Lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas de demande de riz, personne ne voudra investir dans la production du riz. Si on voit qu'il y a plus de consommateurs de véhicules, vous aurez des usines de montage de véhicules dans ce pays. Lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de pouvoir d'achat du côté de la population pour répondre à une offre quelconque, l'activité économique se fait absente. Et alors, pour la compenser un tout petit peu, on est obligé de fonctionner sur la base des importations. Et ça, c'est catastrophique. C'est encore une fois un renforcement de la dépendance extérieure. Encore une fois, la responsabilité de la défaillance de l'économie nationale en 50 ans, à mon humble avis, est imputable totalement à la Banque centrale.
Mais aujourd'hui, nous parlons plus des perspectives d'avenir, ce qui est passé. Et passé, c'est vrai qu'on ne doit pas se focaliser sur le passé, mais on va se baser sur le passé pour pouvoir regarder l'avenir et voir dans quelle mesure on peut évoluer. Nous allons écouter aussi Théophile de Kananga et aussi Joël de Béni.
Au capillaire.
Bien, vous suivez parole aux auditeurs aujourd'hui, nous parlons budget de l'État. Bonjour Théophile.
Oui, bonjour Marie.
50 ans après l'indépendance de la RDC, que faut-il faire aujourd'hui pour réduire en fait l'apport extérieur au budget de l'État qui est totalement prépondérant depuis les 50 dernières années?
Merci beaucoup. Je pense que je suivais les gens qui disent qu'ils impliquent toute la charge qui les sache. Je pense que la part de responsabilité est vraiment partagée entre le gouvernement, la population et aussi le pouvoir législatif. Les députés, même qui a insisté beaucoup sur l'État, ils disent qu'eux aussi ont une part de responsabilité dans la gestion de ces pays. Ils sont en train de couvrir les ministres, les tours, etc. Parce qu'il y a des plateformes où on va les couvrir. Et la population aussi ne veut pas payer l'impôt. Il n'y a pas cette culture-là de payer l'impôt passé à partir de l'impôt que l'État est survivre, ou aussi le gouvernement ne sait pas gérer d'une façon orthodoxe les finances publiques. Comme proposition, comme je dis à la fin de l'émission, moi je pense qu'il faut d'abord lutter contre l'économie informelle. Parce que toutes les activités actuellement en RDC sont tournées vers l'économie informelle. l'État ne peut plus régénérer les recettes à partir de ses opérateurs économiques. Et aussi, il faut une gestion orthodoxe des finances publiques, je pense que ça peut aller, cultiver aussi la mentalité de l'épargne et de l'investissement. De toute façon, là, nous ferons peut-être face à ce financement extérieur. Nous sommes dépendants. Ça sert à rien de parler de l'indépendance aujourd'hui, aussi longtemps que l'économie est encore malade. L'économie est malade quand nous dépendons encore de l'extérieur. C'est pour dire que nous sommes encore dépendants de l'extérieur et que nous avons encore une même mise sur nous. On parle des jubilés aussi longtemps que l'économie est malade.
Merci beaucoup, Théophile. À partir de Kananga, nous avons l'honorable Christophe Lutundula. Il est pour l'instant à Bruxelles. Bonjour, monsieur Lutundula.
Bonjour madame.
Quel est votre avis concernant la réduction de l'apport extérieur au budget de l'État 50 ans après l'indépendance?
Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est d'abord une question de volonté politique. Premièrement, nous devons gérer rationnellement les mêmes ressources qui sont disponibles, notamment par la rationalisation de la dépense publique, dépenses inutiles, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, qui prive l'État et notre pays chaque année de centaines de millions de dollars. Ensuite, il faut augmenter la production intérieure, en particulier la production agricole, qui a connu une chute libre depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas à relever, de manière à augmenter notre capacité d'exportation. En troisième lieu, nous devons augmenter la valeur ajoutée de nos produits intérieurs, qu'il s'agisse des produits miniers et des produits agricoles, de manière que ce produit coûte un peu plus cher sur le marché international et nous rapporte plus. Quarto, nous devons augmenter l'épargne interne par l'augmentation du pouvoir d'achat des populations, que ce soit la population qui travaille dans le secteur public ou privé ou la population agricole. Il y a également le renforcement de la capacité des administrations fiscales pour saisir le plus possible la matière imposable et enfin un effort pour faire entrer, comme l'a dit tout à l'heure votre intervenant, tout ce qui est comme capacité de production de l'économie informelle pour le faire entrer dans l'économie formelle.
Merci beaucoup, honorable Christophe Lutundula, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes à Bruxelles pour l'instant. Nous allons aussi écouter Joël de Béni. On vous écoute, Joël. Joël? En oui, tout cas, il y a un retour.
La partie de l'université du Lingue et du Congo.
Oui, et Joël, là, il y a un petit bruit assez désagréable. Si vous pouvez un peu vous déplacer. En 10 minutes, quelles sont vos propositions?
Pour moi, d'abord, je vais, premièrement, d'abord, démontrer d'abord le pouvoir de l'État. Il faut que nous puissions mettre le pouvoir de l'État en place. Car l'État, qui est les finances publiques, à le service ou soit à l'objectif de rechercher les ressources capables pour satisfaire, pour pallier aux dépenses publiques. Et maintenant, où est-ce que maintenant l'État va trouver? En fait, c'est à partir des impôts. Des impôts. Et comment? Pourquoi ces impôts comment? Quand il y a un circuit économique en marche, un bon circuit économique, les opérateurs économiques sont en train de fonctionner normalement. Il y a des emplois, il y a des investisseurs qui sont en train de venir. Donc à ce moment-là, maintenant, on aura maintenant les ressources capables pour faire les dépenses publiques.
Merci beaucoup. S'il vous plaît, Joël, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Vous avez fait vos propositions. Merci pour votre intervention au cours de cette émission. Parole aux auditeurs. Monsieur Michel Sombo, nous sommes à la fin. Pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour pouvoir réduire en fait cet apport extérieur qui prédomine sur l'apport intérieur?
Nous devons faire attention à ce que nous appelons l'économie de cercle vicieux. Vous avez entendu l'honorable Tondoula faire tout un chapelet des recettes qui sont en fait des recettes classiques, qui sont des recettes qui sont envisageables dans une économie normale, qui fonctionne de façon normale. Ceux qui ont parlé de la réduction du secteur informel, lui, y compris en raison. Mais nous devons savoir, comme le monsieur qui a parlé aussi du partage des responsabilités entre l'État et la population, il existe ce qu'on appelle en économie le cercle vicieux. Il faut savoir à partir de quoi partir pour rompre un cercle vicieux. C'est très très important ça. Faire des recettes pour dire voici, on doit renforcer les capacités, on doit maximiser la valeur ajoutée, on doit augmenter la production, ça c'est du classique. Comment peut-on le faire? À partir de quoi peut-on le faire? Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas une politique monétaire qui finance l'activité économique. Il n'y a pas une politique monétaire qui permet la création du revenu intérieur, lequel le revenu peut se transformer en salaire, en profit et autres qui, en fait, sont des sources de l'impôt.
Voilà.
Tant que cela est absent, on tournera en rond. On continuera à réciter les mêmes chapelets qu'on a pris dans les cours de la science économique et on tournera jamais le rond. Il faut savoir pointer le mal là où il est, qui s'appelle Banque Centrale, avec sa politique monétaire, malheureusement catastrophique.
Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à la réduction de l'apport extérieur au budget de l'État. Mais il y a quand même Omari Amouri, il écrit ceci, la Sénafec et M. Somoué, ainsi que la FEC, ont une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui en RDC. Ils pensent que ce qui mine les finances publiques, c'est la corruption. J'aimerais entendre M. Somoué sur ce sujet-là. Donc prochainement, nous pourrons en parler. Nous vous disons merci à vous, auditeurs, merci à ceux qui nous ont suivis sur www.radiocapi.net, aussi à ceux qui ont écouté cette émission. On estime demain, c'est un prochain rendez-vous, nous allons parler de l'importance des archives dans le processus démocratique en marge de la Journée internationale des archives célébrée la semaine dernière. Quelle importance accordez-vous aux archives? Réagissez dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Je vous souhaite une bonne journée en compagnie de Radio Capi et à demain à partir de 10h.